Dans la corne de l'Afrique, les pays poussés à empêcher l'Éthiopie de devenir une grande plaque tournante économique et même nucléaire dans le monde reculent face à la fermeté d'Addis Abeba. Concernant le méga barrage de la Renaissance, le Soudan donc a annoncé lundi une visite du ministre de l'Irrigation, Yasser Appos, prévue dans la journée du mardi pour participer aux réunions des ministres des bassins orientales du Nil en Éthiopie. Il en est ressorti que le Soudan a annoncé avoir accepté un accord provisoire partiel afin de remplir le barrage de la Renaissance avant son entrée en service sous réserve de signer les termes de l'accord précédent et de garantir la continuité des négociations selon un calendrier déterminé. L'Éthiopie a donc réitéré son intention de procéder au deuxième remplissage du barrage de la Renaissance, soulignant qu'il n'y aura aucun changement à cet égard, quoi qu'il en soit. Le point dérangeant, ce sont les ambitions de l'Éthiopie de faire du pays et de la corne de l'Afrique le bras de l'Afrique, comme l'a récemment déclaré le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Les États qui veulent empêcher cela sont sous la pression de tierces extracontinentaux comme les États-Unis ou encore Israël. Les sanctions émises par Washington contre l'Éthiopie, les nombreuses tentatives de l'Égypte et du Soudan afin d'empêcher l'Éthiopie de se développer et faire de l'Afrique de l'Est une puissance mondiale fait peur à de nombreux acteurs extracontinentaux. D'autant plus qu'Addis Abeba compte également se lancer dans le nucléaire civil en collaboration avec la Russie. Mais outre ceci, l'Éthiopie a également montré qu'il n'était pas prêt à courber les Chines face aux diktats occidentaux. Donc si l'Éthiopie est surtout donc la corne de l'Afrique si stratégique, monte en puissance et forme un bloc contre l'Empire, cela va faire des émules, non seulement en Afrique, mais également au Moyen-Orient. Ce qui fait que le développement de l'Éthiopie et sa politique indépendantiste fait tant peur. Et à l'instar de la Centrafrique, comme donc l'Éthiopie et la Centrafrique, ces deux pays ne comptent pas seulement sortir leur propre pays du joug du néocolonialisme, mais ils comptent bien faire sortir le continent africain de cette spirale infernale qui empêche le continent de décoller comme il se doit. Ces deux pays font des émules et l'effet domino est très rapide en Afrique et pourquoi pas un axe de la résistance qui va rallier la Corne de l'Afrique au Moyen-Orient très bientôt. Les exactions, le lancement des pseudo-révolutions et manifestations tout genre dans les pays d'Afrique afin de renverser les pouvoirs légitimes et dérangeants pour les colons occidentaux et la résistance des États africains mettent au grand jour les auteurs de ces exactions. Depuis la suspension de Twitter au Nigeria et le début des négociations entre les deux parties, personne ne peut dire avec exactitude si l'on est proche ou non d'une reprise des activités du réseau social dans la République fédérale. Au Nigeria, c'est toujours le statu quo entre Twitter et les autorités locales, ces dernières ne semblent pas disposées à relancer les activités du réseau social dans le pays. Et pour cause, les choses semblent même aller dans le sens contraire. En effet, Lai Mohammed, le ministre de l'Information, a déclaré que Jack Dorsey, le patron de Twitter, est responsable des pertes subies durant le mouvement N-SARS. Le ministre nigérian affirme que Jack Dorsey donc aurait financé le mouvement populaire contre la violence policière pendant que son réseau social alimentait les tensions. Le 12 juin dernier, le patron du réseau social a tweeté le drapeau nigérian en soutien donc à la population et de nombreux commerçants qui utilisaient le réseau social dans leur chaîne de valeur se plaignent des conséquences de cette suspension. Pour le moment, les autorités nigériennes exigent que Twitter crée une structure locale et obtienne une accréditation. Interrogé sur un retour prochain du réseau social sur une chaîne de télévision locale, Muhammadu Buhari, le chef de l'État nigérian, a déclaré qu'il gardait la réponse pour lui-même. Les réseaux sociaux en Afrique sont des moyens de pression utilisés par les Occidentaux pour lancer des révolutions en tout genre. Ce qu'a fait le Nigeria, c'est bel et bien de bloquer un réseau social qui nuit à la sécurité du pays. Les manifestations provoquée touche principalement les pays d'Afrique dont le chef d'État aurait pris éventuellement une décision ou lancé une initiative qui aurait provoqué l'ire des colons occidentaux. Et oui, il ne faut pas plus pour mettre en place un processus pour déstabiliser un pays et finalement renverser le pouvoir en place. Le réseau social, donc tout comme les médias mainstream, sont des armes de prédilection de l'axe occidental dans son processus de déstabilisation des États africains. Le fait de couper l'herbe sous le pied des médias mainstream ou des réseaux sociaux empêche en grande partie la déstabilisation du pays cible. D'autant plus que maintenant le Nigeria est de nouveau la cible de l'axe occidental et pour cause avec l'échec donc du Parti démocrate américain de renverser le pouvoir grâce au lancement des manifestations N-SARS dans le pays. Et et les politiques indépendantistes du pays. Donc l'Occident n'en est pas resté là et a même apporté un problème de taille au Nigeria, à savoir la montée en puissance du groupe de mercenaires à la solde occidentale, Daesh. Dernièrement, le groupe donc de Boko Haram a confirmé donc la mort de son chef, tué lors d'un conflit avec le groupe Daesh. Et les médias mainstream montrent maintenant que c'est Daesh qui a repris la main donc au Nigeria, ce qui veut dire que les pressions sur le gouvernement de Buhari vont continuer et vont même s'amplifier. Ce scénario rentre également dans le programme d'expansion des terroristes en Afrique de l'Ouest annoncé par les patrons de ces groupes, à savoir la DGSE, le CIA ou bien le Mossad et compagnie. Le Nigeria lutte contre la campagne de déstabilisation du pays menée par les pays occidentaux avec à sa tête le Parti démocrate américain qui revendique ouvertement être derrière les récentes manifestations NSARS. En Centrafrique, l'ONU sort de ses gonds et décidément, les instances internationales ne prêtent pas du tout attention à la volonté des populations en Afrique et la raison est assez claire, cela n'arrange absolument pas les néocolons. En Centrafrique, après que la population et le gouvernement centrafricain ont poussé la France vers la sortie, l'ONU se sent maintenant visée. Les manifestations des Centrafricains demandant le départ de la MINUSCA se multiplient et l'ONU n'arrive pas à gérer cette situation embarrassante et surtout, l'instance se demande comment elle va pouvoir prolonger sa présence dans ces pays d'Afrique où, tout comme les troupes d'occupation occidentale, elle est poussée vers la sortie. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, sort maintenant de ses gonds et réclame l'arrêt immédiat des actions hostiles visant les casques bleus et la MINUSCA, donc en Centrafrique. « Je suis profondément troublé par l'augmentation inacceptable et sans précédent des menaces et des incidents hostiles contre le personnel de sécurité déployé bilatéralement et les autres personnels de sécurité ciblant la MINUSCA », affirme le chef de l'ONU dans son rapport. Guterres dénonce aussi une vaste campagne de désinformation menée depuis mars à l'égard de la MINUSCA et de ses dirigeants, incluant des accusations de collusion avec des groupes armés et appelant à des manifestations en faveur d'un retrait de la MINUSCA venant entre autres d'acteurs proches du parti politique du président. Dans un premier temps, ce n'est pas qu'en Centrafrique que la mission de l'ONU est menacée, mais de nombreuses manifestations demandant le départ immédiat des missions de l'ONU se multiplient à travers l'Afrique, notamment en RDC, en Éthiopie, au Mali, etc. Mais ce qui a attiré l'attention de Zoom Afrique, c'est que le secrétaire général de l'ONU n'est jamais sorti de ses gonds comme ça dans les autres pays. Bien au contraire, il a gardé un certain silence, ce qui montrait que sa place était bien gardée et qu'il ne risquait pas d'être poussé vers la sortie. Mais pour l'instant, les deux pays qui ont fait réagir l'ONU de la sorte, c'est bien l'Éthiopie et la Centrafrique. Pour la RCA, il est clair que le ton que prend Guterres montre bien que le processus pour faire mettre dehors la MINUSCA est bien mis en place et elle va bel et bien pousser la mission de l'ONU hors du pays. C'est pourquoi Guterres prend un ton pareil et dans les prochains jours, il faudra bien évidemment s'attendre à un prochain nouveau rapport de l'ONU qui va sortir concernant une prétendue famine qui, donc touchant des milliers et des milliers de Centrafricains, vu que les prétendus rapports concernant les exactions en tout genre de la part des soldats de l'armée nationale ou encore des soldats donc russes est déjà sorti il y a quelques jours. En bref, jusqu'à présent, les nombreuses campagnes de désinformation grossières n'ont pas du tout eu l'effet escompté par les auteurs. Ce fut le contraire, la Centrafrique a repoussé les attaques médiatiques et les Centrafricains ne sont pas dupes et ils l'ont montré au monde entier. Les médias mainstream, l'ONU, les États occidentaux, néocoloniaux n'ont plus leur place en Afrique et en Centrafrique, et même si c'est encore difficile pour eux de l'admettre. La République démocratique du Congo et l'Ouganda entendent tirer pleinement profit de leur proximité géographique. Se fondant donc sur leurs relations diplomatiques actuellement cordiales, les deux pays donc multiplient les initiatives pour intensifier le commerce bilatéral. Le président ougandais Yoweri Museveni et son homologue congolais Félix Tshisekedi ont procédé ce mercredi à la pose de la première pierre des travaux d'un important réseau routier censé booster les échanges économiques entre les deux pays. C'est le poste frontalier de Pondwe-Kassindi qui a servi de point de rencontre pour la matérialisation de ce vaste chantier qui couvrira 223 km de route à réhabiliter ou à construire entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Les travaux sont exécutés dans le cadre d'un partenariat public-privé au sein duquel la répartition des parts dans le financement s'effectue de la manière suivante. La compagnie d'ingénierie ougandaise Dot Service LTD à 60%, le gouvernement ougandais à 20% et le gouvernement congolais à 20%. Pour la partie ougandaise, cette modernisation du réseau routier pourrait faire doubler les échanges commerciaux en plus d'améliorer l'interconnectivité et de la sécurité dans l'est de la RDC. Actuellement, l'Ouganda dégage environ 532 millions de dollars par an grâce au commerce avec son voisin. Le pays de Museveni exporte un certain nombre de marchandises vers la RDC. Il s'agit notamment des plastiques, des vêtements et des produits alimentaires produits par les industries nationales. Au Bénin, après la certification de conformité aux normes de l'OACI décernée à l'aéroport de Cotonou, il est attendu une augmentation du niveau de fréquentation de la plateforme. C'est fort de cette évidence que les autorités du pays envisagent de poursuivre le plan d'amélioration de sa capacité d'accueil. Le gouvernement du Bénin, réuni en Conseil des ministres en sa section du mercredi 16 juin, a donné son feu vert pour le démarrage des travaux de la phase 2 de la mise aux normes de l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou. Les travaux dans le cadre de ce second volet du projet prennent en compte le réaménagement de la zone d'accueil, la rénovation intérieure du pavillon ministériel et la construction d'un salon business class. Inscrit dans le programme d'action du gouvernement, le projet a pour objectif fondamental d'augmenter la capacité d'accueil de la plateforme aéroportuaire de 500 000 à 1 500 000 passagers par an. La phase 1 dans la mise en œuvre avait permis d'effectuer les travaux structurants concernant la piste d'atterrissage, l'aérogare, les aires de stationnement ainsi que la digitalisation des services d'enregistrement. Selon l'Agence nationale de l'aviation civile du Bénin, la mise en œuvre de la phase 1 du projet a été un facteur très déterminant dans l'attribution de la certification de conformité aux normes de sécurité aérienne décernée à l'aéroport le 20 mai dernier. La gestion des accréditations et la formation dans les TIC, la médecine et l'agriculture sont les points que la Gambie cherche à améliorer dans son système d'enseignement supérieur. Elle veut solliciter l'expertise de ses voisins de la sous-région à l'instar du Ghana. La Gambie a entamé donc un processus de réforme de son enseignement supérieur pour le conformer aux normes mondiales. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, le ministre gambien de l'enseignement supérieur, de la recherche, des sciences et de la technologie a entamé une tournée afin de collaborer avec les pays de la sous-région ouest-africaine. Première étape, le Ghana, où le ministre gambien a sollicité un mentorat dans la gestion de ses universités, notamment l'Université des sciences, de l'ingénierie et de la technologie, nouvellement créée sur les cendres de l'Institut de formation technique de Gambie. L'UCET a choisi l'université Kwame Nkrumah des sciences et de la technologie. Dans le cadre de ce mentorat, les deux universités vont collaborer dans les domaines de l'ingénierie civile, électrique, électronique, géomatique et mécanique, ainsi que dans la médecine vétérinaire. La Gambie a également sollicité l'accompagnement de la Commission de l'enseignement supérieur du Ghana pour aider l'Autorité nationale d'accréditation et d'assurance qualité de la Gambie, l'organisme national chargé de réguler les établissements d'enseignement donc supérieur, à renforcer ses capacités. Pour les autorités des deux pays, cette collaboration est un très bon exemple de coopération sud-sud. Au Burkina Faso, le ministère en charge du développement numérique, à travers sa Direction générale du développement de l'industrie numérique, a animé une conférence de presse ce mercredi à Ouagadougou. Il s'est agi donc pour cette direction de donner officiellement le top départ de la 7e édition du concours de détection de jeunes talents en technologie de l'information et de la communication, donc Génie TIC 2021. Les candidatures pour cette édition du concours de détection de jeunes talents en technique de l'information et de la communication sont attendus donc du 17 juin au 8 août en ligne. Et l'information a été donnée ce mercredi par la Direction générale du développement de l'industrie numérique à travers une conférence de presse. Après réception des dossiers, le directeur général de la dite direction a indiqué que leurs présélections interviendront donc dans le courant du mois d'août et seront suivies d'un atelier de maturation des projets et de prise de parole des candidats. Cette rencontre aura lieu donc vers fin août en ligne éventuellement. Et à l'issue de cela, Dans le courant du mois de septembre, la place est donnée à la sélection des finalistes par le jury, suivi par leur audition sur leur projet du 27 septembre au 1er octobre. La dernière phase, c'est-à-dire la proclamation des résultats, se fera dans le courant du mois de novembre et les domaines en compétition du concours sont proposés selon les priorités nationales. Ainsi, pour cette édition, 7 secteurs sont à l'ordre du jour. Le secteur rural, donc l'agriculture, l'élevage, la sécurité routière et territoriale, la santé, le transport, donc mobilité urbaine et interurbaine, l'économie verte, l'innovation libre, donc peu importe le domaine. Et dans le but donc de bénéficier des performances des technologies émergentes, il est vivement recommandé que les solutions proposées s'appuient sur celles-ci. L'ancien président de la Zambie, Kenneth Kaunda, hospitalisé en début de semaine, n'est plus âgé de 97 ans. Le père de l'indépendance de la Zambie était hospitalisé donc depuis lundi au centre médical Maina Soko pour une pneumonie, comme l'avait déclaré son assistant Rodrigue Golo. Le problème de la pneumonie revient régulièrement chez l'ex-président et chaque fois que vous entendez qu'il est à l'hôpital, c'est à cause d'une pneumonie, avait-il affirmé, ajoutant que l'état de santé de l'ex-président s'était amélioré depuis lundi. Surnommé le Gandhi africain pour son militantisme non violent, Kenneth Kaunda avait conduit l'ancienne Rhodésie du Nord, protectorat britannique, à l'indépendance sans effusion de sang en octobre 1964. Se réclamant du socialisme et proche de Moscou, il a dirigé le pays pendant 27 ans. Après de violentes émeutes, il avait accepté des élections libres en 1991 et fut battu. Lorsqu'il était au pouvoir, il a accueilli de nombreux mouvements luttant pour l'indépendance ou l'égalité des Noirs dans d'autres pays de la région, dont le Parti sud-africain du Congrès national africain. Également nommé Kaka, il était le chef du principal parti nationaliste, le parti du centre-gauche UNIP.